Deuxième séance de notre colloque. Et pour animer cette séance, Robert Comeau, historien, a été professeur au collège, au département d'histoire de l'UQAM, pardon, de 1969 à 2006. Il a collaboré à de nombreuses publications et a participé à l'organisation d'un grand nombre de colloques. Il a dirigé jusqu'en 2010 le bulletin d'histoire politique qu'il a cofondé en 1992 et dirigé pendant 25 ans la collection Études québécoises chez VLB Éditeur. Il est actif dans plusieurs organismes de promotion et de diffusion de l'histoire, dont la Coalition pour l'Histoire, la Société du patrimoine politique du Québec. Il est secrétaire de la Société historique de Montréal et vice-président de la Fondation Lionel Groulx.
Alors, on va reprendre à cette deuxième séance qui est consacrée à Groulx dans la cité. On a déjà commencé à en parler un peu. Charles-Philippe Courtois a parlé d'un peu des réactions aux travaux, aux publications du Chanoine dans une première période, là, avant 1931. Alors, on va donc procéder dans le même ordre que le programme, c'est-à-dire que le premier conférencier, c'est Éric Bédard. Je vous le présente rapidement. Historien et professeur à la TELUC, c'est l'école de formation à distance de l'Université du Québec. Éric Bédard est l'auteur chez Boréal de « Recours aux sources », qui est un essai sur notre rapport au passé, et aussi sa thèse qui s'intitulait « Les réformistes, une génération canadienne-française au milieu du 19e siècle ». Et avec Xavier Gélina, il travaille à l'édition des chroniques politiques de René Lévesque, dont le premier tome a été publié chez HMH en juin 2014. Alors, son exposé, c'est Lionel Groulx, défenseur et critique de la Révolution tranquille. Alors, à toi, Éric.
Merci beaucoup, Robert. D'abord, je dois dire que je suis très heureux que ce colloque conjoint ait pu être organisé entre l'Institut et la Fondation. Je pense que ça aurait été impensable il y a une dizaine d'années. Alors, je suis heureux de cette situation. Alors, j'ai changé le titre de ma communication. Donc, ne quittez pas la salle. Ça traite encore de la Révolution tranquille, mais le titre, c'est « L'État français sans la jeunesse ». Donc, les rapports de Lionel Groulx à la Révolution tranquille continuent d'être discutés. Sur le site Tradition Québec, dans un texte tout récent, 23 mars, l'historien Jean-Claude Dupuis présente Lionel Groulx comme le contre-révolutionnaire tranquille par excellence. Un homme à l'époque honoré, note-t-il, mais hélas, plus écouté par personne. Dupuis se fonde pour l'essentiel sur la critique grouxienne du rapport Parent qui allait conduire à la déchristianisation de la société canadienne-française. Deux ans plus tôt, devant le public de l'auditorium de la Grande Bibliothèque à Montréal, Mathieu Boccoté, dans une conférence consacrée à la journée du 30 octobre 1995, présentait de son côté Lionel Groulx comme le précurseur du maître chez nous, le grand inspirateur de l'État français et, je le cite, comme le père fondateur de la Révolution tranquille. Qui a raison? Qui a tort? À mon avis, si les deux points de vue sont diamétralement opposés, ils comportent tous les deux une part de vérité. Grâce aux travaux de Xavier Gélina, de Pierre Trépanier, de Stéphane Pigeon, de Sylvie Baudreau, nous connaissons assez bien les rapports de Groulx à la Révolution tranquille, des rapports complexes, troubles, mais somme toute assez noirs. C'est du moins ce que laissent voir les écrits des années 60. Ces écrits, quels sont-ils? Eh bien d'abord, évidemment, « Chemin de l'avenir ». Un essai de 161 pages lancé le 21 décembre 64 devant un parterre de notables, dont le ministre Pierre Laporte, qui lut une lettre élogieuse du premier ministre Jean Lesage, le père de la Révolution tranquille. Cet essai allait avoir un certain retentissement, ne serait-ce qu'en plan des ventes. Groulx parle de 10 000 copies vendues dans ses mémoires. Un livre qui s'est beaucoup plus vendu que le Canada français missionnaire, lancé en grande pompe deux ans plus tôt, mais resté sur les tablettes. Autre écrit, évidemment, de Lionel Groulx, où il revient sur la Révolution tranquille, le huitième et dernier livre de ses mémoires, vraisemblablement écrit durant les derniers mois de sa vie, c'est-à-dire vers 1966-67. Dans ces deux textes testamentaires et crépusculaires à bien des égards, que dit-il au juste de la Révolution tranquille? En gros, rien de très positif, le portrait est même extrêmement sombre. Tout n'est pas complètement noir, cependant. Il voit dans la Révolution tranquille la prise de conscience adulte d'un peuple adulte et salue la mystique de l'effort dans ses mémoires, qui est à l'œuvre. Il salue la conversion, le mot est important, de la classe politique assez vue sur les nécessités politiques, économiques et sociales de doter la nation canadienne française d'un État français en vue d'être maître chez nous. Dans « Chemin de l'avenir » et dans ses mémoires, il cite sa célèbre préface à l'enquête de l'Action française et plusieurs extraits de conférences et d'entrevues accordées au fil des années qui montrent noir sur blanc que s'agissant de la nationalisation de l'hydroélectricité, de la réforme de l'État, les révolutionnaires tranquilles ne font qu'appliquer un programme conçu, pensé, rêvé dès les années 20 par la vieille garde nationaliste. Un programme nationaliste qui aurait normalement dû être mis en œuvre par l'Union nationale dès la fin des années 30. Hélas, comme il l'écrit dans « Semaine de l'avenir », Maurice Duplessis aurait sabordé les espérances de 36 et instauré, je le cite, un régime de médiocrité continue. Plusieurs études sophistiquées d'histoire intellectuelle ont montré que, dans son esprit, État français n'était pas nécessairement synonyme d'État indépendant. Lui, d'ordinaire si méfiant à l'égard de la gente politicienne, il affiche dans ses mémoires une certaine sympathie pour trois personnages clés de la Révolution tranquille. Il montre d'abord de la sympathie pour Jean Lesage, qui, après avoir été un centralisateur libéral à Ottawa, adopte les vues nationalistes partagées par ses compatriotes, écrit-il. Il a de la sympathie aussi pour Georges-Émile Lapalme, l'auteur d'un important programme, écrit-il dans ses mémoires, de 600 à 700 pages, une œuvre remarquable, selon son bon ami René Chaloux, qui l'aurait lu. Il a de la sympathie aussi pour René Lévesque. Dans ses mémoires, il cite un bref échange de juin 65 entre lui et Lévesque. « Vous autres politiciens, lui disais-je, c'est Gros qui parle, réussirez-vous à tuer ce moment, ce réveil, comme vous en avez tué tant d'autres ?»« Jamais !» m'avait répondu d'un ton brusque le ministre Lévesque. « Qui que ce soit qui gouverne à Québec se verra forcé de faire ce que nous nous efforçons de faire. » Fin de la citation. Dans une lettre à Jean-Marc Léger du 17 avril 67, quelques jours avant sa mort, Groulx loue le travail de ce ministre sortant qui, je le cite, « paraissait souhaiter à la longue de nous rendre vraiment maîtres chez nous. » Fin de la citation. Xavier Gélina, dans un texte publié déjà, a montré les lignes de continuité entre le nationalisme traditionnaliste de Groulx et un certain nationalisme modernisateur de Lévesque. Je vous invite à aller le lire. Donc, s'il se réjouit de l'édification d'un État français, il condamne vivement, plusieurs l'ont montré, la révolution culturelle, c'est le terme qui est utilisé souvent, en train de se produire durant les années 60. Il dénonce un arrachement à la tradition, un rejet radical du passé. Les mots qu'il utilise dans ses mémoires, alors qu'il approche les 90 ans, ne manquent pas de force. Tout, je le cite, paraît s'effondrer dans ce nouveau Québec en train d'émerger. Il se sent, je le cite, aussi perdu qu'un enfant dans la forêt tropicale. À ses yeux, cette secousse culturelle a tout d'un déferlement de vagues fracassantes, on dirait aujourd'hui d'un tsunami. Et là, je le cite encore, « Aucun événement de notre histoire, pas même la conquête anglaise, ne nous aura remués, ébranlés, jusqu'au fond de nos assises. » Fin de la citation de ses mémoires. Ces assises, on les devine, ce sont celles de la religion catholique romaine, celle des docteurs et des penseurs de son Église, celle d'une certaine conception de ce qu'il appelle l'homme fondamental qui, malgré les avancées de la technique, malgré les progrès de la science, reste foncièrement le même. Cet homme fondamental dont l'âme, cette partie supérieure et spirituelle, dit-il, doit inspirer la vie. Cet homme fondamental blessé par le péché originel et pour lequel la culture et la vie bonne sont une conquête quotidienne et difficile. Ces assises, ce sont aussi celles d'une éducation humaniste classique censée former des hommes d'élite. S'il a de l'estime pour les Lesage, Lapalme et Lévesque, il affiche le plus grand mépris pour Paul Gérin-Lajoie et les commissaires chargés d'enquêter sur le système éducatif. Aussi, il dénonce les recommandations du rapport Parent, trop soumises à une doxa pragmatique et utilitariste importée des États-Unis. Dans « Chemin de l'avenir », Groulx cible les responsables de cette révolution culturelle sans précédent. Il s'en prend aux mauvais maîtres, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Henri de Monterland, André Gide, le plus dangereux de tous, écrit-il. Il s'en prend aussi aux dirigeants de l'Action catholique spécialisée. Il leur reproche leur catholicisme trop abstrait, trop irréel, trop éloigné de l'ancrage national. Il s'en prend aussi aux excès de libéralisme de Cité libre et aux émissions de Radio-Canada qui diffusent, je le cite, une chanson érotique puante souvent de la sensualité la plus désinvolte. S'agissant de la Révolution tranquille, ce qui m'a le plus frappé en lisant Chemin de l'avenir et ses mémoires, c'est le portrait extrêmement sombre qu'il trace de la jeunesse. On a vraiment le sentiment, en le lisant, que c'est le mode de vie, que ce sont les valeurs de cette jeunesse des années 60 qui le troublent le plus et qui le rendent si pessimiste. Sauf erreur, ce rapport de Gros à la jeunesse ne me semble pas avoir été beaucoup avoir attiré l'attention des chercheurs. L'hypothèse que je vais formuler dans la seconde partie de mon exposé, c'est justement que sa déception de la Révolution tranquille est directement liée à la conception qu'il s'était forgée de la jeunesse durant son long parcours de militant nationaliste. Cette jeunesse nouvelle, il la voit défiler quotidiennement devant sa résidence de la rue Bloomfield à Outremont. De sa fenêtre, il aperçoit en fin d'après-midi les élèves de l'école Kerb et du collège Saint-Viateur. Le spectacle de ces adolescents débraillés le désole. Que j'en aurais vu de ces collages de garçonnets et de fillettes empoignés par le cou et par la taille et déambulant au défi de toute pudeur, dit-il dans ses mémoires. Cette jeunesse, il la voit aussi à la télévision, en train de danser, la fameuse émission Jeunesse d'aujourd'hui, au son de chansonnettes de la plus entière vulgarité. Comment ne pas s'affliger de ces sauteries d'épileptiques, fol effort de fillettes de 10 à 12 ans, les cheveux dénoués, mêlés à des bambins du même âge et qui s'ingénient à se défaire le corps, à se tordre en tous sens. Citation de ses mémoires. À plusieurs reprises, il déplore que la jeunesse s'adonne à des amusements médiocres. Une jeunesse s'attriste Gros, à qui échappe le sérieux, sinon même le tragique de la vie. Cette jeunesse se comporte pour lui de manière si étrange, si sauvage même, qu'il a l'impression d'assister à la naissance, je le cite, d'une race nouvelle surgie d'un tronc vermoulu. Cette dimension biologique n'est pas sans importance chez Gros. Il croit vraiment que les jeunes souffrent d'un déséquilibre physiologique, produit d'un surcroît vitaminique, conséquence d'une diète, je le cite, suralimentée en viande, en fruits et en légumes. Ça, c'est dans les chemins de l'avenir. Les jeunes auraient donc un surcroît d'énergie, mais cette énergie serait mal canalisée. Cette jeunesse, déplore Gros, n'a foi qu'en elle-même. Elle se moque du passé, n'a que faire des traditions. Aucune autorité ne s'est imposée à elle. La philosophie éducative de ses maîtres fut celle de l'Émile, de Jean-Jacques Rousseau. Cette théorie du bon sauvage, une théorie complètement dépassée à ses yeux et contraire à la vérité. Laissée à elle-même, laissée dans l'état de nature, cette jeunesse, donc, laisse libre cours à ses plus bas instincts, s'adonne à une sexualité débridée, souille la jeune fille innocente. Il est en effet beaucoup question de sexualité dans Chemin de l'avenir. Ses positions sont très loin de celles des personnalistes chrétiens qui, depuis les années 50, prônent un nouveau rapport au corps et à la femme, qui souhaitent transmettre une vision moins austère de la sexualité. La perspective de Gros est celle d'un homme du 19e siècle et du traditionalisme. Il assimile la sexualité à la bête en nous et continue à prôner l'ascèse chrétienne. L'homme des années 60 aurait, selon lui, je le cite, perdu sur son corps l'empire souverain de jadis. Il ne serait plus capable de réprimer ses instincts, ses fantaisies, ses passions. Esclave de ses désirs, l'homme des années 60 ne pourrait plus se concentrer sur sa vie intérieure. Or, je le cite, « point d'âme libre sans ascèse ». Déjà 5 minutes. Mon Dieu! Parmi les tâches sociales fixées par Gros à la jeunesse, il y a celle qui fait sourire aujourd'hui de réhabiliter la jeune fille et celle de restaurer la famille comme institution. Il considère les naissances hors mariage comme un indice de relâchement et dénonce les fréquentations trop intimes avant le mariage ou la croyance illusoire au grand amour auquel succombent trop de jeunes filles, écrit-il. On souhaiterait que la morale chrétienne lâchât la bride à tous les instincts sexuels, écrit-il dans Chemin de l'avenir. Mais où aboutirait la moralité d'une nation, la virilité d'un homme, le respect de la femme transformée plus que jamais en jouet des passions masculines? Alors pour saisir la nature de ce diagnostic extrêmement sévère, il faut remonter dans le temps et mieux comprendre la haute mission assignée par Lionel Gros à la jeunesse. Toute sa vie, il fondera d'immenses espoirs en elle. C'est d'elle que devait surgir le renouveau. C'est d'elle que viendrait la régénération morale de la nation. Le rayonnement de l'Église catholique romaine en Amérique. Pendant sa prime jeunesse, Lionel Gros a tenu un journal qui permet de reconstituer son cheminement intellectuel et spirituel. Le 13 septembre 97, le jeune homme de 19 ans écrit « La religion et la patrie, tels seront les deux amours constants de ma vie. À quelque carrière que Dieu me destine, mon cœur, mon âme, ma vie est à ces deux grands noms. » À 19 ans, Lionel Groulx entend donner le meilleur de lui-même, donc à Dieu et à la patrie. L'engagement est total, c'est tout son être qu'il met au service de ses causes sacrées. Ces images du soldat, du gladiateur antique, du croisé, elles sont très importantes pour comprendre la représentation qu'il se fera par la suite de la mission qu'il assigne à la jeunesse. La jeunesse est d'ailleurs le sujet de son premier livre, « Croisade d'adolescents » 1912, qui raconte les débuts de l'ACJC, une association née en même temps que la Ligue nationaliste, dans laquelle il s'investira énormément. Groulx explique qu'en créant cette association au début du XXe siècle, lui et d'autres souhaitaient proposer à la jeunesse un idéal haut et précis, et d'ainsi rompre, enfin, avec la tradition de fainéantise et de badauderie épicurienne dans « Croisade d'adolescents ». L'ambition, former des soldats de l'Église et de la patrie. Cette idée revient toujours. L'ouvrage est aussitôt paru que Groulx projette de lancer une grande enquête, cette fois-ci sur la jeunesse universitaire. En plus d'encadrer les adolescents, des collèges, il importait également de canaliser l'énergie des étudiants universitaires vers de plus hautes aspirations. Alors, il dresse d'ailleurs le portrait idéal de l'étudiant en 1913. Cet étudiant, il y a un document qui a été retrouvé par Pierre Trépanier dans les archives. Cet étudiant idéal pour Groulx disposerait d'une culture générale, pétrie par les enseignements de Thomas d'Aquin, culture générale qui ferait de lui un apôtre de la vérité, serait un résistant religieux et traditionnaliste, qui résisterait au découragement, au cynisme, aux soupçons généralisés, serait fier de sa foi, pratiquerait un catholicisme apostolique tourné vers la cité, serait aussi évidemment un patriote engagé. Cette jeunesse idéale, cette jeunesse tant espérée, Lionel Groulx a le sentiment de l'avoir émergée durant les années 30. Cette jeunesse de 37, à laquelle il dédie la réédition du premier tome de Notre Maître le passé. Cette jeunesse qui le gonfle d'espoir. Ce Groulx des années 30 croyait que la jeunesse était enfin prête à poursuivre les grands desseins qu'il avait imaginés pour elle dès le début du siècle, alors qu'il n'était encore qu'un modeste professeur de collège. Confronté au chômage, à la corruption du régime libéral, au pouvoir démesuré des trusts, la jeunesse des années 30 cherchait des maîtres, un programme d'action, un élan. Plusieurs se tournaient donc tout naturellement vers Groulx, étant de lui des orientations, des directives, le titre de ses grands essais des années 30. Alors, Groulx dit alors comprendre l'inquiétude tragique de la jeunesse et sa colère contre leurs aînés qui ont abandonné les attitudes traditionnelles. Deux mois après le fameux congrès de la langue française, lors duquel il prononce « Notre État français, nous l'aurons », propose une conférence intitulée « Préparation des jeunes à leurs tâches prochaines ». Et aux parterres des éducateurs venus l'écouter, il lance deux consignes. « Faites-nous des hommes et faites-nous des saints ». Pour faire des hommes, il faut de l'éducation physique, une culture intellectuelle, une solide formation sociale et nationale qui informerait les Canadiens français de leur double domination et de la nécessité de doter leur nation d'un État définiteur et protecteur du droit des puissances, de puissance et de coordination. Mais faire des hommes, donc, mais aussi faire des saints. La proposition étonne, mais Groulx y voit la vocation normale de tout chrétien. Et pour faire émerger ces héros, il fallait cultiver chez les jeunes une saine nature morale, c'est-à-dire une véritable ascèse, que Groulx définit comme une lutte pour le gouvernement de soi-même, comme un effort et un sacrifice, un hommage du corps et de l'âme à Dieu. Je conclus. Alors, ce que pressent l'octogénaire Lionel Groulx, marqué par les enseignements de Bossuet, de Louis Veillot, imprégné d'une pensée traditionnaliste, c'est que l'État français, engendré par cette révolution tranquille, se construit, mais sans la sève régénératrice d'une jeunesse chrétienne et ascétique au service d'un grand idéal. Dopé par les idées à la mode, propagée par tous ces faux maîtres du soupçon, cette jeunesse n'avait plus l'esprit de sacrifice des croisés. Ce qu'il craint donc, c'est que cet État français, dont il salue l'avènement, ait toutes les allures d'une coquille vide. Un grand corps, certes, mais irrigué par un sang vicié. Une superstructure politique impressionnante, mais qui, sans infrastructure morale et spirituelle, risquerait tôt ou tard de s'affaisser. Que dans un tel contexte, Lionel Groulx n'est pas considéré l'indépendance politique du Québec comme la terre promise, ne doit donc guère nous surprendre. Merci.
Merci, Éric. Donc, la deuxième communication va être présentée par Lucia Ferretti, qui est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialiste d'histoire socio-religieuse du Québec. Elle s'intéresse notamment à la transition de la gestion religieuse à la gestion étatique du système de protection sociale au 20e siècle. Ce colloque l'a conduite à se replonger dans la lecture de Lionel Groulx, et le thème de sa conférence est « L'Église dans l'œuvre historique de Lionel Groulx, déception et discrétion ». À moins qu'il y ait un changement de dernière minute. Non? OK.
Quiconque a lu les mémoires de Lionel Groulx ne peut pas tirer une autre conclusion que celle-ci. Dans la première moitié du 20e siècle, l'Église, c'est-à-dire l'institution ecclésiastique, ne soutient pas le Canada français. Non seulement celui-ci ne peut-il compter ni sur la curie ou le délégué apostolique, ni bien sûr sur l'épiscopat canadien-irlandais, mais malheureusement, trop souvent, même ses propres évêques et plusieurs de ses universitaires clercs lui font défaut. Or, cela, au moins, aurait dû le défendre. Si j'avais eu du temps, on aurait rappelé Mgr Charbonneau, on aurait rappelé le cardinal Villeneuve, le bon ententisme de Arthur Maheu. Mais enfin, il faut aussi rappeler que dans les mémoires, dont Pierre Trépanier disait ce matin que c'était une longue plainte, on peut voir à quel point les clercs nationalistes ou les religieux nationalistes ont été punis dans la première moitié du 20e siècle par leurs supérieurs. Bref, Lionel Groulx ne se berce pas d'illusions sur les chefs ecclésiastiques et religieux, ni sur les universitaires clercs de son temps. Ce n'est pas sur eux que pourra s'appuyer le Canada français. De là l'intérêt d'aller voir la place et le rôle qu'il réserve à l'Église dans notre histoire. Donc, comme a dit Robert, j'ai refait un grand tour là, de l'œuvre historique du chanoine, et en deux phrases, que je nuancerai ensuite, voici mes conclusions. Plus Groulx vieillit, moins l'Église est présente dans son œuvre. De même, plus on avance dans le temps, moins elle compte dans l'histoire du Canada français. Pour apprécier la chose avec justesse, il ne faut toutefois pas se méprendre sur le projet de Groulx. Ce projet, il l'énonce en 1925 dans l'Histoire et la vie nationale. Ce qu'il veut, c'est réveiller la conscience nationale. Car seule la conscience de soi du Canada français comme groupe distinct peut stimuler sa volonté de vivre et soutenir la résistance constante qu'il doit consentir pour y parvenir. La conscience de soi, c'est cela le principe vital d'une nation et non pas l'État ou l'Église. Presque 30 ans plus tard, l'Église comme l'État seront d'ailleurs totalement absents de la conclusion de l'histoire du Canada français, dans laquelle Groulx reviendra sur ce qui a toujours été l'essentiel pour lui, l'appel à la volonté de vivre. Si donc l'Église occupe peu de place dans la production historique de Groulx, c'est qu'il n'entend pas faire l'histoire des institutions qui ont façonné la nation, mais plutôt nourrir la conscience nationale du Canada français. Mais qu'il ait dû instaurer un tel divorce entre nos institutions et la nation me paraît néanmoins tout un signe. Pour lui, ni l'État ni l'Église n'ont aidé le Canada français à développer sa conscience de soi. D'ailleurs, son reproche le plus récurrent aux évêques de son temps, c'est de si peu se préoccuper de développer le sens national des futurs prêtres enseignants. Comment, dans ces conditions, les jeunes générations plus instruites pourront-elles devenir des éveilleurs de conscience nationale et des défenseurs du Canada français? Avant d'aborder le cœur du sujet, une dernière mise en garde, la foi, ainsi que le catholicisme comme religion, on en a parlé dès cet après-midi, sont pour Groulx évidemment constitutifs de la personnalité nationale du Canada français. Les perdre serait tout perdre, au sens où le Canada français cesserait alors d'exister. Mais à lire Groulx, on s'aperçoit que c'est par le peuple que le catholicisme se transmet, avec la vie. Il faut donc bien distinguer chez lui l'Église comme institution et le catholicisme comme trait de personnalité nationale. Mon premier point, si on n'a pas le PowerPoint, mais mon premier point s'intitule « La naissance d'une race par l'œuvre de Dieu et la foi des pionniers ». Toute l'histoire fait voir le jeu de deux grands acteurs, l'homme et Dieu, écrit Groulx. Dieu a voulu la naissance de la colonie, Julien le disait tout à l'heure, parce qu'il a donné au Canada français une mission d'évangélisation, et ce depuis le premier jour. Est-ce trop affirmé, écrit-il, que de faire de Cartier le premier missionnaire de la Nouvelle-France, écrit-il dans Notre Maître le passé. Or, d'abord, Cartier est un laïc, et deuxièmement, on ne lui connaît pas tant de liens avec l'Église. Après Dieu, la foi des pionniers est à l'origine de la colonie. Vous remarquerez que la grande majorité des études de Groulx, qu'on pourrait rattacher au champ de l'histoire religieuse, ont été écrites au début de sa carrière d'historien et portent sur les tout premiers commencements de la colonie. Jacques Cartier, Maisonneuve, Ville-Marie, les grandes mystiques Marie de l'Incarnation et Catherine de Saint-Augustin. Ces études ont été réunies dans les trois séries de Notre Maître le passé, mais surtout la première. Dans celle, dans l'étude sur Marguerite Bourgeois et Jeanne Mance, Groulx n'écrit même jamais le mot « Église ». On a là l'œuvre de deux femmes laïques. Relisez aussi le tome 1 de l'Histoire du Canada français. Groulx n'y parle jamais autant de thèmes religieux que pour cette période des premiers commencements, la période dite de l'enracinement, celle qui précède l'arrivée de Monseigneur de Laval. Je ne veux évidemment pas dire que l'historien ne s'intéresse pas à l'Église comme institution. Il n'y a que deux études sur un évêque dans toute l'œuvre de Groulx, et l'une d'elles porte justement sur Monseigneur de Laval. Ce premier évêque y est décrit comme l'un des fondateurs de la race, le père spirituel d'un tout un peuple. En outre, on doit reconnaître que dans l'histoire du Canada français, écrite dans les années 50, l'œuvre éducative de Marguerite Bourgeois et l'œuvre hospitalière de Jeanne Mance sont cette fois placées dans le chapitre consacré à l'Église. Malgré tout, le Canada français étant né déjà catholique, si l'on peut dire, Groulx peut se dispenser de montrer le rôle de l'Église dans le façonnement de ce catholicisme. Comme on peut le voir dans sa petite plaquette de 1920 intitulée « Chez nos ancêtres », la famille compte plus que l'Église pour la transmission de la foi. La paroisse elle-même y est présentée surtout comme un groupement social, le cadre de la vie publique. Seul un dernier court chapitre évoque la dimension religieuse de la paroisse. Par ailleurs, dans le tome 1 de son Histoire du Canada français, pour les périodes après 1672, c'est quand même nouveau dans notre histoire, là, c'est jeune, 1672, pour les périodes après, Groulx ne réserve plus à l'Église que quelques petites pages ici et là, à peine le temps d'évoquer la lutte pour la défense de ses droits contre l'État, l'élargissement du champ des missions, l'organisation en paroisse du territoire de la vallée du Saint-Laurent, ainsi brièvement que l'œuvre éducative et sociale. On peut donc compléter Guy Frégaud. Pour le régime français, ce n'est pas seulement le rôle de l'État que Groulx n'a pas assez étudié, mais même celui de l'Église. On en a une preuve de plus lorsqu'on voit que dans son étude sur l'Acadie avant 1713, Groulx ne dit rien sur l'Église, sauf pour écrire une fois le mot « prêtre » en passant. C'est la foi des Acadiens et le sentiment qu'ils sont déjà de leur pays qui prépare ceux-ci pour la survivance et non leurs prêtres. En ira-t-il différemment ensuite? Pour la période du régime anglais, une Église qui heurte le sentiment populaire. Dans l'introduction au second tome de l'Histoire du Canada français, Groulx annonce que celui-ci entre maintenant en une vie de résistant. Le rôle dominant de notre histoire revient aux facteurs politiques, écrit-il. Notre histoire nationale devient celle d'une lutte pour la liberté politique et le respect de nos droits, conditions de la survivance. Une telle interprétation explique la chronologie retenue. La césure importante survient en 1848, date de l'affranchissement politique du Canada sur le plan intérieur par la victoire définitive du gouvernement responsable. Je ne le suivrai pas ici et ferai de l'Union un moment charnière. Pour dire que si Groulx parle peu de l'Église pour l'époque du régime anglais, les trois thèmes qu'il aborde vont au cœur de la relation que celle-ci a entretenue avec la nation canadienne. Est-ce l'Église qui a sauvé la nation après 1760 ou le peuple qui a sauvé l'Église? Groulx revient sur cette question pendant 30 ans, dans plusieurs textes. Tantôt, comme en 1922, le premier service que nous rendit l'Église fut de nous conserver la foi. Qui oserait prétendre en effet que la foi des vaincus eût subsisté en ce pays si nos chefs religieux avaient cédé aux manœuvres du vainqueur et accepté la suppression de l'épiscopat? Mais en 1926, c'est au contraire le peuple qui réussit à obtenir un évêque. L'un des premiers gestes du peuple, c'était, manquant de tout, de se cotiser, d'aller plaider jusqu'à Londres la conservation de l'épiscopat. Tantôt enfin, comme en 1952, peuples et curés des Canadiens sont du même bord, celui de la nation, tandis que l'institution, elle, est naturellement servile devant l'occupant. Le loyalisme des évêques, l'historien ne cesse de le déplorer. Fruit d'une politique britannique faite d'un savant dosage de concessions et de menaces, cela ne le rend pas pour autant acceptable. L'historien reproche aux évêques de ne pas communier aux sentiments populaires, ni au moment de la Révolution américaine, ni par la suite. On s'inquiète, dit-il un peu, lorsqu'en leur correspondance, on les voit revenir avec insistance sur la paix et la tranquillité dont les Canadiens français ont eu le bonheur de jouir sous le gouvernement de l'Empire britannique, écrit-il dans Notre Maître le passé. Et dans l'histoire du Canada français, Monseigneur Plessis, entre autres, peut constater combien son loyalisme britannique heurte le sentiment populaire. Monseigneur Plessis, véritable bête noire de Groulx, est celui qui a, entre autres, lancé la théorie invérifiable de la conquête bienfait providentielle. Qu'en est-il maintenant de l'Église durant les rébellions? Dans Notre Maître le passé, Groulx note, presque avec satisfaction, qu'une partie du clergé fut plutôt favorable aux rebelles. Il tient aussi à défendre Mgr Lartigue, qui s'est, selon lui, montré aussi peu interventionniste que possible. Au terme d'une analyse détaillée à l'extrême, Groulx en vient même à présumer que très peu d'entre les rebelles ont réellement subi les peines canoniques prononcées contre eux. Quelques années plus tard, dans l'histoire du Canada français, l'historien choisit de traiter autrement le thème de l'Église pendant les rébellions. Il n'en parle presque plus. Il rappelle simplement que le clergé rural a longtemps partagé les aspirations des patriotes et que le curé Blanchet, une forte tête, fut même emprisonné. Et s'il dit bien que l'anticléricalisme des parlementaires canadiens a pu éloigner les évêques, en revanche, il n'y a plus un seul mot sur Mgr Lartigue. Franchement, c'est à se demander si l'Église était ici pendant les rébellions. Le point 3, le vrai chef, c'est Louis-Hippolyte Lafontaine, plutôt que Mgr Bourget, pour la période de l'Union. La période de l'Union, on l'a dit, est l'une de celles que Groulx a le plus travaillé. C'est aussi seulement pour ces années que l'Église, en tant qu'institution, fait l'objet d'une étude spécifique. Qu'aux alentours de 1840, la tiédeur religieuse d'ensemble, voire l'anticléricalisme de certains, ait fait place à une ère d'élan et de dynamisme religieux, Groulx en parle. On a vu néanmoins qu'il ne fait pas de ce changement un point tournant dans le parcours de la nation. Le grand chef des années 1840 et 1850, ce n'est pas Mgr Bourget, pourtant un clairvoyant de génie. C'est plutôt Louis-Hippolyte Lafontaine, même si Groulx juge que ses ambitions personnelles ont pu parfois prévaloir sur l'intérêt national. La démission de Lafontaine, et donc son parcours politique remarquable, fait l'objet d'une étude. Au contraire, l'action de Mgr Bourget n'est nulle part rassemblée. Ça, c'est la plus grosse surprise de toute ma relecture. Il faut lire à droite et à gauche pour s'en faire une idée, incomplète d'ailleurs. Son rôle dans la mise en place des structures qui vont permettre le relèvement du Canada français n'est nulle part densément mis en évidence. Il faut dire que dans l'Histoire et la vie nationale, texte écrit en 1925, c'est à l'émancipation politique plus qu'à l'action de l'Église que Groulx attribue les progrès que connaît la nation en ces années. C'est elle-même la nation qui se donne alors un système scolaire conforme à ses vœux, elle-même qui fonde son enseignement supérieur, elle-même encore qui essaime sa vitalité religieuse au-delà des frontières. Puis, Dans les premières séries de notre maître le passé, pas un mot sur Bourget, y compris dans l'article sur la naissance des Rouges. Serait-ce parce que le prélat montréalais n'est pas intervenu immédiatement? Bon, c'est peut-être possible. Dans celui sur les Zouaves, Groux, fidèle à son habitude, présente leur élan comme s'il avait surgi de la jeunesse elle-même. Au moins, il fait allusion aux structures qui ont rendu possible la naissance des Zouaves. Bourget, en revanche, n'y est présent que pour une bénédiction. L'historien se reprendra quelque peu en 1942, dans son étude sur la situation religieuse au Canada français vers 1840, publiée dans la troisième série de Notre Maître le passé. Enfin, le faisceau est réellement pointé sur l'Église en tant qu'institution nationale. Groux y présente les Lartigue et Bourget de 1839 comme des chefs nationaux. Il fait ensuite valoir quelque peu le rôle de Bourget comme organisateur de la vie religieuse, son impulsion dans le renouveau des missions et de la vie sociale, voire intellectuelle, du Canada français, avec la fondation de l'Université Laval, sans dire un mot toutefois des querelles ayant entouré cette naissance. Groux n'absout pas tout dans le clergé sous l'Union, cependant dans l'ensemble, il crédite positivement son action. De même, dans les 25 pages consacrées en tout aux années 1848-67 dans l'histoire du Canada français. Bien que l'orientation générale de la section soit encore politique, l'Église y est quand même un peu présente. Bon, je vais couper parce que là, je sens que... Le dernier geste significatif de l'Église dans l'histoire du Canada français fut l'appui de l'évêque au projet de confédération. Appui sans enthousiasme notre Groux et même silence chez Bourget. Mais s'ils eussent prévu le dixième seulement de ce qui est arrivé, les persécutions scolaires et tant de manquements de parole, chacun admettra que les évêques du Bas-Canada n'auraient jamais écrit leur lettre pastorale en faveur de la Confédération, écrit-il. Dans le dernier tiers du 19e et le premier tiers du 20e, on peut voir deux périodes contrastées. Un Martien, qui pour connaître notre histoire ne lirait que les œuvres du chanoine, pourrait conclure que l'Église catholique a somme toute peu influencé le Canada français après la Confédération et que là où elle fut active, ce fut au fond essentiellement dans l'enseignement. Raison sans doute de la monographie qu'il y consacre en 1931. Seul le dernier chapitre de l'histoire du Canada français lui laisserait à notre Martien entrevoir autre chose, comment, au XXe siècle, l'Église a façonné la société québécoise. Dans la première série de Notre Maître le passé, l'historien dresse un émouvant portrait de Mgr Alexandre Antonin Taché. Seul évêque, outre Mgr de Laval, à être ainsi mis en évidence, il doit cet honneur à sa défense courageuse et vaine des droits scolaires des minorités françaises de l'Ouest. Par ailleurs, aucune étude ne porte sur la période d'après la Confédération dans les deux dernières séries de Notre Maître le passé. Il faut donc une fois de plus aller du côté de l'histoire du Canada français pour voir quel traitement Groux réserve à l'époque à l'Église. Sur les 90 pages qui courent avant 1931, l'Église figure essentiellement dans deux pages qui portent sur les luttes autour de l'école française dans les provinces anglophones et dans un très très court chapitre sur l'enseignement dans le Québec. Même la poursuite du mouvement de colonisation est présentée comme relevant d'initiatives quasi personnelles du curé Labelle, des Oblats et de quelques autres prêtres. Groux se fait un peu plus loquace pour l'époque contemporaine. En particulier, il termine sa vaste synthèse par un fort chapitre sur la vie de l'Église, problèmes religieux, signe que l'institution vaut qu'on s'y intéresse. C'est là seulement qu'il aborde les querelles intestines, mais sans avoir jamais dit lesquelles, mais aussi qu'il aborde le déploiement de l'Église sous un gouvernement provincial catholique. Là qu'il parle d'une véritable explosion de vitalité religieuse, en soulignant sa présence à tous les niveaux dans l'éducation, sa présence dans la santé, dont il parle pour la première fois depuis le régime français, et son expansion tant au pays que dans les missions extérieures. Œuvre de foi au début de la colonie, le Canada français apparaît en fin de parcours comme étant quand même finalement une société, et donc un peu l'œuvre de l'Église. Puis à la toute fin du volume, Groux exprime une inquiétude. Le monde issu de la Deuxième Guerre mondiale met le Canada français en danger de mort. Où retrouvera-t-il la vigueur de son âme. C'est pour cette raison, je crois, que mobilisant ses dernières forces intellectuelles, il voudra raviver la mission que Dieu aurait assignée à son petit peuple en écrivant le Canada français missionnaire. Les missionnaires d'aujourd'hui sont les nouveaux canoteurs de la foi, dit-il. Comme à l'époque de la Nouvelle-France, ils vont bien loin de chez eux pour agrandir le pays qui est le royaume de Dieu. Frappant une fois encore, comme Grou n'évoque pas, même dans ce livre-là, il n'évoque pas l'Église comme institution. Ce qu'il montre, c'est plutôt l'effort de 6000 humbles fils et filles du Canada français qui partent sur tous les continents à la conquête des âmes. De nouveau, comme dans les premiers commencements de la Nouvelle-France, Dieu, la foi et les missionnaires sont les personnages principaux de l'histoire. La fierté que devrait éprouver le Canada français parti ainsi pour irriguer le monde devrait, Grou l'espère, raviver leur conscience de soi comme groupe et pour une génération de plus, le porter à vouloir vivre. Conclusion. Dans les premières pages du premier tome de son histoire du Canada français depuis la découverte, Grou écrit « Le fait Église tient une telle place dans l'histoire du Canada qu'on ne saurait l'en exclure sans rendre cette histoire inexplicable. » Cela dit, on doit convenir que concrètement, l'historien s'est passé le plus souvent de l'Église pour expliquer notre histoire. Ce n'est pas l'Église qui a fait la nation, c'est le peuple. Un peuple catholique et français par transmission familiale, paroissiale et scolaire. La principale contribution de l'Église à la nation pour toutes les époques réside dans l'enseignement, et ce malgré les lacunes que Grou souligne maintes fois. Pour le reste, et particulièrement dans ses relations avec le pouvoir politique, l'Église fut décevante, et parfois pire que décevante. Heureusement, les curés, les religieux, les religieuses, issus du peuple et faisant corps avec lui, ont en quelque sorte ancré la foi et la religion dans la nation. Il faut dire que pour Grou, fixer sur l'histoire du Canada français comme nation, au sens de communauté politique, bon, comme c'était ça son but, il a délaissé l'histoire du Canada français comme société. Et s'il l'avait fait, c'est là probablement qu'il aurait vu davantage le rôle de l'Église.
Merci, Lucia. C'est Yves Gingras qui fera la prochaine communication. Alors, Yves Gingras est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences et professeur au département d'histoire de l'UQAM. Il a récemment publié « Les dérives de l'évaluation de la recherche » aux éditions Raison d'agir. Et il a dirigé la publication de « Controverses, accords et désaccords en sciences humaines et sociales » au CNRS en 2014. Il a aussi publié de nombreux articles sur le frère Marie-Victorin, qui est un contemporain de Grou. Alors, le thème de sa communication, c'est justement Marie-Victorin et le Québec intellectuel de l'entre-deux-guerres, un regard tourné vers l'avenir.
Yves. Merci. Le thème de la session, c'est Lionel Grou dans la cité. Donc, je me suis dit, regardons donc, pas uniquement Lionel Grou, ce que mes amis ont fait, mais comment la cité perçoit la place de Lionel Grou à l'époque. Et donc, il n'y a aucun doute, on a toujours dit donc, que Lionel Grou est le plus grand intellectuel de l'entre-deux-guerres. Ma thèse a toujours été de dire qu'il ne faut pas penser qu'il y avait un seul grand intellectuel pendant la Deuxième Guerre. Il y en a un autre qu'on a eu beaucoup tendance à oublier, c'est que Marie-Victorin était un des très grands intellectuels de l'entre-deux-guerres. J'entends par là de 1917 à 1944, dans un très grand nombre de textes de combat, que lui-même appelait ses textes de combat, que j'ai réuni en livre en 96 sous le titre « Science, culture et nation », dans lesquels on retrouve les textes les plus combatifs, les textes les plus virulents, les plus polémiques de l'entre-deux-guerres. Et à partir de ça, je me suis dit donc, quelle est la relation, puisque Marie-Victorin était très visible dans le monde intellectuel, la question 1, c'était quelle était la relation entre Marie-Victorin et Lionel Grou. Ensuite, de se dire, pour la jeune génération qui avait 20 ans, en 1930-1932, quel était le regard qu'il portait vers ce qu'il cherchait, c'est-à-dire un maître à penser, d'un côté Lionel Grou, mais peut-être aussi Marie-Victorin. Donc, débutons avec la relation entre Marie-Victorin et Lionel Grou. L'intérêt de regarder, c'est que Lionel Grou, vous le savez, est né en 1878, Et Marie-Victorin est née en 1885. Donc, 7 ans de différence, en gros, c'est quand même la même génération. On verra au début des années 30, à travers le cas des deux personnages les plus centraux du mouvement des jeunes Canada, donc Pierre Dansereau, né en 1911, et André Laurendeau, né en 1912. Donc, cette génération-là, qui, on le sait, a été, à travers Jeunes Canada, liée un peu au début à Lionel Groulx. Donc, il est frappant de constater qu'entre Lionel Groulx et Marie-Victorin, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'échange. Dans la correspondance, on trouve deux lettres d'importance, et même seulement deux. Une de Lionel Groulx à Marie-Victorin en 1919, alors que Marie-Victorin, à l'époque, n'est encore qu'un petit frère des écoles chrétiennes qui enseigne au Collège de Longueuil, mais qui vient de publier « Les croquis laurentiens », ouvrage célébré comme une contribution littéraire d'importance à la littérature du terroir. Donc, il lui écrit pour lui demander une biographie canadienne pour paraître dans l'Action française. Et on lui demande de faire la biographie de d'Iberville. Marie-Victorin répond aussitôt par un texte qui paraîtra d'ailleurs dans l'Action française, dans le volume 3, numéro 9, donc à l'automne, septembre-octobre, mais il lui envoie plutôt la biographie du botaniste et entomologiste Léon Provencher. Donc déjà, Marie-Victorin dit « oui, il faut faire des biographies canadiennes, mais on va mettre de l'avant la science ». Pourquoi? Parce qu'en 1917, il avait déjà, dans un premier texte fondamental, publié un texte dont le titre était « L'étude des sciences naturelles, son développement chez les Canadiens français ». Texte fameux dans lequel il critiquait nos écrivains qui faisaient rimer des plantes européennes qui n'étaient pas présentes en Laurentie. Et donc, il y a eu de l'influence, par exemple, sur la rédaction de Menot Maître Draveur, qui a reconnu l'influence de Marie-Victorin pour connaître les plantes du pays. Donc, c'est le premier échange et le dernier échange, ou presque le dernier. Il y en a un deuxième, d'une brève carte de Lionel Groulx du 19 décembre 1935, qui écrit à Marie-Victorin, donc sur une toute petite carte, « Je vous félicite et vous remercie de votre discours de l'autre soir à propos de notre université. Ce sont de courageuses paroles qui susciteront, espérons-le, quelques échos. » Quel était ce texte? Lionel Groulx réagissait au texte paru la veille, donc le 18 décembre, dans Le Devoir, sous le titre « Une génération de professeurs sacrifiés ». Allocution prononcée finalement une semaine plus tôt au cercle universitaire devant les anciens de la Faculté des sciences à l'occasion de l'attribution du prix Coincy de la Société botanique de France. Marie-Victorin, grand stratège, profite de son discours d'un grand prix français, non pas pour parler, de dire merci, on a fait de la grande science, mais pour dénoncer la situation inacceptable dans laquelle l'Université de Montréal est alors en pleine crise économique. Les professeurs sont sur le point de ne plus recevoir leur salaire pendant 4 mois et on leur demande d'être patients. Marie-Victorin, et à l'époque déjà on parle de la gang de Marie-Victorin, lance sur le débat dans Le Devoir un texte absolument très important, de très long, mais je vais prendre seulement un bout. Et il dit « Nous avons eu des sursauts, c'est la pleine crise, il n'y a plus rien qui marche ». Nous avons eu des sursauts, nous avons crié, demandé, redemandé. Et alors, les sages nous ont dit, taisez-vous pour l'amour du ciel. Il ne faut pas hériter ceux qui tiennent la bourse. Ça, c'était les dirigeants de l'Université de Montréal. Donc, c'est implicite, mais c'est exactement ça. De mauvaise grâce, nous nous sommes tus. Et alors, il est arrivé ce qui arrive toujours. On nous a cru satisfaits. Plus loin, il continue sur le même ton. Et il dit, en cette Université de Montréal, nous sommes plusieurs centaines de professeurs responsables de la vie intellectuelle de la nation. Ne sommes-nous pas les faillites lamentables si notre opinion, si nos revendications collectives dans ce qu'elles ont de plus élevé et de plus désintéressé n'impressionnent aucunement, ni ceux qui sont à l'intérieur de l'enceinte des parlements, ni ceux qui les y mettent. Il me semble, mes amis, que l'heure est propice autant que grave. L'opinion publique est alertée sur une foule de sujets. Elle est frappée aujourd'hui par des points de vue qui ne la frappaient pas hier. Elle est peut-être préparée à entendre que du strict point de vue patriotique, la grande partie se joue autour de nos universités. Nous avons déjà perdu de grandes batailles économiques, Si nous laissons périr ou végéter, c'est tout un, nos foyers de culture, nous ne sommes plus rien. Nous sommes mûrs pour la dissolution, pour la lise totale. On nous dira, vous allez vous faire des ennemis. Je réponds avec quelqu'un qui s'y connaissait. Les ennemis, ça sert à mesurer la hauteur où l'on est et n'en a pas qui veut. Ça vous donne le ton. Donc, Grou lui répond, merci de ce texte qui, on l'espère, aura de l'effet. Et ce n'était pas le premier, un texte de 1925, donc la même année du texte qu'on vient de citer, s'appelait « Le Québec, un pays à découvrir, un pays à conquérir ». C'est un discours sur le développement économique du Québec et que la nation canadienne-française ne deviendra indépendante économiquement que par le développement scientifique. Donc, c'est un discours qui était connu, qui était lu dans les journaux, particulièrement dans Le Devoir, toujours prêt à faire paraître tous les textes de Marie-Victorin. Là, c'est une petite anecdote qui est intéressante. Le Devoir fait paraître le texte sous le titre que je viens de dire, « Une génération de professeurs sacrifiés », le titre est clair. La presse le fait paraître aussi, mais sous le titre « L'appel de la science doit être mieux écouté ». Quand on lit le texte, peut-être qu'on ne le lira pas avec un titre comme celui-là. Et donc, c'est les deux seuls échanges entre les deux penseurs. Donc, tournons-nous vers quelqu'un qui est extraordinaire parce qu'il se situe exactement entre les deux, c'est Pierre Dansereau. Pierre Dansereau étudie à partir de 1933, de 1933 à 1936 à l'Institut agricole d'Oka. C'est un fervent nationaliste qui veut devenir agriculteur et élever une famille sur la terre, mais de façon plus scientifique, en ayant obtenu une formation en études agricoles à Oka avec le père Louis-Marie et d'autres qu'il forme scientifiquement. Lorsqu'on regarde la correspondance donc de Dansereau, on voit qu'elle débute à peu près au même moment avec Lionel Groulx d'un côté et avec Marie-Victorin de l'autre. Donc, on peut comparer les discours qu'ils tiennent l'un à l'autre et l'influence que chacun peut exercer sur l'autre. Je ne dirai rien ici parce que le temps nous manque sur le fait qu'effectivement, le fameux manifeste des jeunes Canada qui paraît à l'automne en novembre ou décembre 1932, et que Lionel Groulx recopie complètement dans ses mémoires, et il nous dit, au fond, qu'il a joué un rôle important dans sa rédaction de le fait qu'il met dans ses mémoires. Pierre Dansereau le met aussi dans ses mémoires, et ça nous rappelle effectivement que les mémoires, au fond, c'est une sculpture que l'auteur se dresse à lui-même, et donc il faut la lire avec une certaine distance. En le mettant, Groulx veut dire qu'au fond, c'est lui qui prend les jeunes et qui dit, écoutez, au lieu d'aller lancer des tartes aux gens, soyez stratégiques, je vais vous aider à écrire un texte. Si vous lisez l'autobiographie de Dansereau, il minimise un peu le fait que... Donc, c'est Dansereau qui est à la tête, c'est normal. Chacun sculpte sa sculpture. Et donc, il y a ce lien qu'on connaît, il y a une rencontre avec Groulx, y compris en février 1933. Et en septembre 1933, ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit une lettre à Marie-Victorin. Il dit... De mes entretiens avec vous, qui sont toujours trop brefs, donc je pense qu'il le rencontre de temps en temps à son bureau, mais on ne sait rien de plus. De mes entretiens avec vous, je reviens toujours avec une force nouvelle. Je me fais une autre idée de ce que Dieu attend de moi et je voudrais tellement m'y préparer. 6 jours plus tard, Marie-Victorin lui répond. Je ne vous parle pas des jeunes Canada. Je pourrais seulement vous dire que dans l'état présent des choses, il faut des hommes munis d'un cerveau nouveau. De tous côtés, on fonde. Cela prouve qu'il manque des cadres, qu'un grand organisme se cherche et s'élabore. Pour cela, il faut des hommes. Vous avez l'ambition d'en être un. Je vous en félicite. Ça continue. Donc, il ne lui parle pas des jeunes Canada. Il suggère que oui, il se donne une autre vue de l'avenir. C'est bien. Il va par étapes. Donc, début de février, il y a une rencontre entre Dansereau et Groulx, dont on ignore un peu le contenu. Et en mars 36, donc février-mars, un mois plus tard, une longue lettre de Dansereau à Marie-Victorin qui, soudain, Dansereau, doute de son avenir et lui demande conseil. Donc, il dit que ses préoccupations nationales ne l'ont pas abandonné, et que c'est comme agronome qu'il croit pouvoir rendre service. Mais il ajoute, « Or, mes conceptions d'ordre patriotique se sont, depuis 3 ans, donc 33-36, sensiblement modifié. De plus en plus, j'ai compris que cette compétence technique elle-même constituait le nationalisme le plus sain et le plus sûr. Et aujourd'hui, la perspective du travail sur la Terre, telle que je me la figurais il y a encore un mois, ne me paraît plus le meilleur moyen d'accomplir ma destinée. Donc, il pense aller étudier en Europe, parfaire sa formation et demande conseil à Marie Victorin. À mon avis, cette phrase, cette compétence technique elle-même constitue le nationalisme le plus sain et le plus sûr, une lecture des textes de Marie Victorin à l'époque ne peut que l'amener à conclure ça. C'est le discours de 1925. Oui, la nation doit être autonome, mais ça ne peut se faire que par le développement scientifique autonome, littéraire, artistique. Donc, quelques mois plus tard, le 17 septembre 1936, toujours à cette époque charnière, Lionel Groulx écrit à Dansereau à propos d'un article que Dansereau vient de faire paraître sur la question universitaire. Or, on vient de voir qu'en 1935, il y a un texte important de Marie Victorin sur la question universitaire, et toute la partie 1935-1938, le cœur de l'action universitaire, avec toute une équipe autour, est centré autour de Marie Victorin. Et donc, on devine qu'il a lu ces textes-là. L'Université de Montréal, comme je l'ai dit, est alors en crise, et Marie Victorin joue un rôle central avec son équipe, donc la bande à Marie Victorin, dans ce qui s'appelle la Société d'études et de libre discussion des problèmes universitaires, qui fut construite sur la base du programme lancé par Marie Victorin dans un autre article de 36, du 16 juin 36, qui s'appelait « Sur le front universitaire », qui a mené à la création avec les étudiants autour de, dans, autour de Marie Victorin, donc Jules Labarre, Jacques Rousseau et toute sa jeune équipe se sont dit « On va se réunir régulièrement pour réfléchir sur l'avenir de l'université ». Ça l'a clairement influencé Dansereau, qui donc reprend le thème de la formation scientifique des Canadiens français. Donc, Groulx lui répond… Parce qu'ensuite, il demande à Groulx et à plein d'intellectuels de venir à une réunion qui porterait sur l'avenir intellectuel de l'université. Donc, Groulx lui répond que c'est l'avenir intellectuel de l'université, et il souligne intellectuel, qui préoccupe les gens invités par Dansereau à une réunion, alors qu'il se dit lui-même plus préoccupé par l'âme de l'université, souligné par Groulx, ou, si vous préférez, par son atmosphère. Je cite, « J'estime que l'institution n'a pas pour but suprême de faire de nos jeunes gens des savants, mais d'abord des Canadiens français et des catholiques. Tout notre enseignement au surplus doit se subordonner à ces fins. Nos universités ne doivent pas être des institutions d'esprit cosmopolite. Elles n'ont de chance d'attirer même les étrangers que si elles peuvent témoigner d'une vigoureuse originalité. De la science, oui, tant qu'on en voudra, mais d'abord de l'atmosphère. Rien ne nous avancera de former des savants s'ils deviennent des déracinés, des incroyants. L'âme, l'atmosphère, nous imposerait une direction des professeurs d'un certain caractère. Il ne faut plus que nos têtes dirigeantes à l'université soient des aventuriers de la finance ou de la politique. Il ne faut plus que nos professeurs soient agrégés à l'université pour leurs seules compétences. Je ne suis pas d'avis, veuillez me croire, que l'esprit catholique ou canadien français d'un professeur soit préféré à sa compétence, mais je dis qu'il faut les deux. Et je n'accepte pas qu'on nous mette dans la nécessité de choisir. Suis-je trop intransigeant? Ai-je tort d'essayer de prendre la question par son sommet? Je ne crois pas que les réformes vitales puissent venir d'en bas ou d'expédient. C'est l'âme qui façonne le corps et tout l'organisme. Pour saisir cette très sombre mais essentielle vérité, je vous avoue compter plus sur votre génération que sur l'ancienne. Vous avez l'esprit singulièrement plus ouvert et plus haut. Votre article sur la question universitaire en témoignait. Aussi, ne saurais-je trop vous inviter à mener votre campagne. Certaines cervelles ne s'ouvriront que sous les coups de marteau assénés, patiemment, persévérément. Nous vivons en pleine anarchie intellectuelle parce que nous avons abandonné notre vie aux mains de mauvais, là j'ai de la difficulté à déterminer son dirigeant ou maître. Il manque un mot que j'ai pas encore déchiffré. On voit le contraste avec Marie Victorin qui lui écrit le 8 décembre 1936, la même année, alors qu'il est parti étudier en Europe. Il écrit donc à Dansereau. Je me suis rendu compte que vous vous êtes fait à vous-même un christianisme très vivant, libéré, fier, utilement teinté d'anticléricalisme. et pour moi rempli de promesses. Donc, on voit, c'est assez intéressant, Marie-Victorin est quand même un frère des écoles chrétiennes, c'est pas un curé, c'est pas un prêtre, donc c'est un petit frère formé pour enseigner à l'école primaire et secondaire. Les frères des écoles chrétiennes, rappelons-nous, sont ceux qui insistaient plus sur la science, la technique, ce qu'on pourrait aller appeler rapidement, même si c'est le terme que j'aime pas, mais la modernité. Le prochain échange entre Groulx et Dansereau ne surviendra qu'en 1944, lorsque Groulx commentera l'article de Dansereau sur l'histoire des sciences au Québec, publié en anglais dans Scientific Monthly sous le titre « Science in French Canada ». Groulx n'a pas du tout apprécié la critique du rôle du clergé dans l'enseignement. Il écrit « J'aurais l'air grincheux et vous penserez peut-être que par susceptibilité d'auteur, j'oublie la haute valeur de votre étude. » Et ensuite, une longue lettre se fondant sur son propre ouvrage sur l'histoire de l'éducation, il entreprend de corriger l'auteur, dit-il, par souci de vérité historique. Dernier échange, 1958, Groulx lui demande s'il se souvient des deux autres noms qui l'ont accompagné chez lui avec Laurent Daud pour lancer les Jeunes Canada. Dansereau n'a probablement pas répondu ou oublié lui-même qui étaient les deux autres, car dans les mémoires, il ne mentionne que Groulx et Laurent Daud et dit deux autres dont j'oublie le nom. Donc, les échanges se résumaient à cela. Par contre, la trajectoire entre Marie-Victorin et Dansereau va continuer. La correspondance entre les deux va être continue de 1936 jusqu'à la mort de Marie-Victorin en 1944. Et comme il est en Europe, et il part en Europe en septembre 1936, il y reste jusqu'à l'été 1939, et déjà en 1938, il prépare son retour. Marie-Victorin dit « Ok, je vais t'arranger ça, tu vas venir travailler au jardin botanique, c'est bien. » Mais il lui écrit une lettre une année avant qu'il revienne en 1939, en mars 1938. Il dit, comme tous les retours d'Europe, vous savez, bon, avec les bourses d'Europe, tous les artistes, les grands peintres, les scientifiques, les médecins ont eu la bourse d'Europe et ont créé cette association des anciens d'Europe qui va publier la revue Idée pendant un certain temps. Et on les appelle les retours d'Europe. Donc, Marie-Victorin lui écrit en disant, comme tous les retours d'Europe, vous entretiendrez probablement l'illusion de pouvoir consacrer tout votre temps à la recherche scientifique. Pour ma part, je maintiens que la recherche doit accompagner l'enseignement autant qu'il est possible. Mais il faut tenir compte des circonstances. Nous sommes la génération qui doit non pas s'enfermer dans un dilettantisme stérile, mais qui doit créer les institutions qui nous manquaient. Encore le discours récurrent de Marie-Victorin, il faut créer des institutions. Cela nous demande et nous demandera à tous une très grande partie de notre temps. Mais nous aurons la joie des créateurs, la joie de la paternité. Ceux qui nous suivront pourront, eux, travailler en paix. La joie d'avoir fait cela vaudra bien pour nous le plaisir d'avoir imprimé quelques petits papiers que nul ne lira. Donc, il dit, oui, Dansereau, là, tu vas venir travailler chez nous, mais on est en train de construire les institutions scientifiques du Québec. Tu ne pourras pas faire de la recherche à plein temps sans t'occuper de te servir, de préparer l'avenir et non pas de te limiter à toi-même. Donc, on voit dans ces discours, au fond, l'incarnation d'une opposition jamais frontale, implicite, et qui s'incarne aussi dans deux phrases qui sont les suivantes. Quand on parle de Lionel Groulx, on dit souvent « notre maître le passé », c'est l'image qui nous vient. Et je pense que ce n'est pas un hasard qu'en 1941, dans une lettre à sa sœur, qui est aussi sœur, Mère Marie des Anges, que Dansereau lui-même appelait la révolutionnaire de Québec. Parce que Mère Marie des Anges a fondé le premier séminaire, le premier collège classique féminin, le collège de Sillery. Et elle a un caractère assez similaire à Mère Victorin. J'appelle ceux qui veulent travailler sur un travail, de travailler sur Mère Marie des Anges, qui est l'analogue dans sa trajectoire de Marie-Victorin pour ce qui est de défendre les femmes. Et elle est la deuxième bachelière, d'ailleurs, de l'Université Laval. Et donc, il lui écrit en 1941, dit, « Je lis cette très belle phrase dans Léonard de Vinci, « Il faut ne pas être dupe du passé. » Donc, d'un côté, notre maître, le passé, de l'autre côté, il ne faut pas être dupe du passé. Et Marie-Victorin, dans tous ses textes, rappelle constamment que oui, le patriotisme est important, oui, la nation est importante, mais ça ne suffit pas. Il dit, quoi qu'il en soit, en ce moment critique de l'histoire de la nation, on est encore en 37, le devoir de tous ceux qui pensent sainement et librement me paraît évident. Que les éléments ultra-conservateurs du clergé et les laïcs qui gravitent autour d'eux et qui sont souvent, comme on dit, plus catholiques que le pape, abandonnent l'idée de dresser un mur de Chine autour de la province de Québec. Le ciel est trop haut, l'étranger trop proche, les ondes trop hospitalières, la radio, aux idées ennemies qui diffusent nuit et jour des hautes tours d'acier urbi et urbi. Qu'ils aient foi plutôt dans la valeur de conquête de la culture catholique et française qu'ils veulent représenter et qu'ils n'hésitent pas à prendre les moyens pour intensifier cette culture catholique et française. Que d'autre part, les laïcs reconnaissent les immenses possibilités culturelles et spirituelles de l'Église, etc. Et donc, il nous dit bien, oui, il faut sauver la nation, mais pas en regardant vers le passé. Et il répète dans tous ses textes jusqu'en 1944, constamment, comme il dit, il ne suffit pas d'être du même sang et de prier le même Dieu pour que l'on puisse nous attribuer une pensée nationale. Il faut l'aliment d'une littérature propre, d'un art distinctif. Il faut une ambiance de recherche, de création scientifique. On nous dit parfois qu'il faut penser nationalement. Entendons-nous, il faut d'abord penser humainement en communiant pleinement l'universel. Ce n'est qu'ensuite que le national pourra venir particulariser et nuancer notre pensée. Et ce texte sur la science et notre vie nationale était tout un plan de politique scientifique complet qui s'adressait non seulement au visage actuel de la science, qui s'adressait à non seulement la science et le droit à une vie nationale, donc le droit à une vie nationale, la science et la pensée nationale, la science et le gouvernement, la science et les assises économiques de la nation. Et donc, on avait là un plan développé qui voulait envoyer justement à des gens qui pensaient qu'ils allaient changer le monde, mais qu'on sait qu'ils ont changé vite, le gouvernement de Duplessis de 1937. Et dès 38, il dit lui-même que Duplessis, aujourd'hui, dans une lettre à Dansereau, dirige le Québec comme une dictature. Il dit, effectivement, on n'a pas réussi, mais dit, nous, la gang de scientifiques, on a réussi à lui faire créer au moins le Conseil québécois de la recherche scientifique qui est dominé par Marie-Victorin et sa bande. Donc, pour quelqu'un comme Dansereau, il y a eu devant lui deux personnages. Au début, il était attiré par l'un. Ensuite, il est passé à l'autre. En somme, la jeunesse de l'entre-deux-guerres a pu s'identifier à deux grands intellectuels, Groux et Marie-Victorin, l'un qui regardait vers le passé et l'autre vers l'avenir. Merci.
Merci, Yves. La quatrième communication est celle de Mathieu Noël, qui est titulaire d'un doctorat en histoire de l'UQAM, spécialiste en histoire intellectuelle, en histoire politique et en histoire des communications. Dans sa thèse, Mathieu Noël retrace l'histoire du quotidien Montréal Matin, un journal d'information populaire qui a longtemps appartenu à l'Union nationale. Membre du comité de rédaction de la revue Mens, Mathieu Noël compte plusieurs publications à son actif, dont la monographie, je cite, « Lionel Groulx et le réseau indépendantiste » des années 1930, publié chez VLB en 2011. À toi, Mathieu.
Merci, Robert. Bonjour. Depuis le début de ce colloque, il a été mentionné à plusieurs reprises que Lionel Groulx était un nationaliste canadien-français. Je suis persuadé que tout le monde ici s'entend sur cette question. Par contre, la position de Lionel Groulx par rapport à l'idée de l'indépendance du Québec fait moins l'unanimité parmi les historiens. Dans cette communication, je propose d'examiner le rapport de Lionel Groulx avec les indépendantistes québécois des années 1930, une période relativement fertile pour l'idée de l'indépendance au Québec. Donc, sans répondre définitivement à la fameuse question « Est-ce que Groulx était indépendantiste? » Je souhaite tout du moins apporter un éclairage supplémentaire à cette question en présentant le rapport de Groulx avec les indépendantistes québécois des années 30. Plus précisément, je vais vous présenter ses relations avec les trois principales organisations indépendantistes de cette période, soit les Jeunes Canada, les Jeunesses Patriotes et le groupe réuni autour du journal La Nation. Au début des années 1930, l'idée d'indépendance est proposée et défendue par les Jeunes Canada. Ce groupe a été fondé en décembre 1932 par des étudiants de l'Université de Montréal. Les membres sont pour la plupart des amis de longue date et ils souhaitent que le groupe demeure restreint et intime, ce qui fait que le nombre de membres ne dépasse jamais la vingtaine. Parmi les principaux membres, nous retrouvons André Laurendeau, Pierre et Dollard Dansereau, Dominique Baudin, Georges Étienne Cartier, Gérard Filion, pour n'en nommer que quelques-uns. Ceux-ci se réunissent et forment les Jeunes Canada pour proposer des solutions à la crise économique et pour améliorer le sort de la jeunesse canadienne-française. Ainsi, au départ, les Jeunes Canada ne sont pas indépendantistes, mais bien nationalistes. Ils militent pour la valorisation de la jeunesse, de la nation canadienne-française et du catholicisme. Toutefois, assez rapidement, André Laurendeau fait en sorte que le groupe adopte une position indépendantiste. Dans une lettre datée d'août 1933, Laurendeau informe Lionel Groulx qu'il souhaite réorienter le groupe vers l'indépendantisme. Il écrit « J'ai lu avec attention une enquête de l'Action française, notre avenir politique. Cela m'a ouvert toutes sortes de perspectives. Cette idée m'était déjà chère. Je me demande si sa réalisation ne pourrait pas être notre œuvre. Au moment où vous avez étudié cette question, vous vous contentiez de regarder venir les événements. C'était juste. Alors, votre position était inattaquable. Ne vaudrait-il pas mieux, maintenant, aider les événements? » Fin de la citation. André Laurendeau fait ici allusion à l'enquête de 1922 de l'Action française à laquelle a participé Lionel Groulx. Dans cette enquête, les membres de l'Action française prévoyaient l'éclatement prochain de la Confédération canadienne et par le fait même la création d'un État francophone indépendant en Amérique. Cette lettre témoigne que, contrairement à Lionel Groulx en 1922, André Laurendeau ne désire pas attendre un éventuel éclatement de la Confédération canadienne, mais vient aider et favoriser la sécession de la province de Québec. Dans les semaines qui suivent, les Jeunes Canada commencent effectivement à proposer et défendre l'idée de l'indépendance. Nous pouvons alors noter le départ de certains membres qui étaient contre cette nouvelle orientation idéologique du groupe, c'est le cas en particulier de Pierre Dansereau, mais aussi l'arrivée de nouveaux membres résolument indépendantistes, dont Paul Simard et Dostaler O'Leary. Les Jeunes Canada proposent la fondation d'un nouvel État français et catholique en Amérique qui prendrait le nom de Laurentie. Ce nouvel État comprendrait le Québec, mais aussi les territoires les plus francophones dans le nord-est américain. Pour expliquer et défendre leurs idées, les Jeunes Canada organisent des assemblées publiques, ils publient des tracts et des cahiers, ils prononcent des causeries à la radio et ils signent des articles et des lettres ouvertes dans les journaux et les revues. Les Jeunes Canada étaient donc un groupe limité en nombre, mais qui bénéficiait d'une audience assez importante dans les milieux nationalistes. Et cette audience, les Jeunes Canada la doivent en grande partie à celui qu'ils considéraient comme leur maître, c'est-à-dire Lionel Groulx. En effet, Groulx est très près des Jeunes Canada. Il faut dire qu'il connaît certains des membres depuis qu'ils sont enfants, car quelques-uns d'entre eux sont les fils de ses anciens collègues à l'Action française. Dans ses mémoires, Groulx mentionne que c'est lui-même qui aurait convaincu ses jeunes amis de fonder les Jeunes Canada. Il s'attribue aussi l'écriture du Manifeste de la jeune génération, le texte à la base de la fondation du groupe, en 1932. Le rôle exact de Lionel Groulx dans la fondation des Jeunes Canada est difficile à déterminer, mais il demeure qu'il est très présent dans l'entourage du groupe. Les indépendantistes des Jeunes Canada considèrent Lionel Groulx comme leur maître. Ils expriment souvent leur admiration pour Groulx dans leurs conférences, dans leurs publications et dans leurs causeries à la radio. Paul Simard, par exemple, ne se gêne pas pour désigner publiquement Groulx comme le véritable chef de la nation canadienne-française. Ce sentiment de respect et d'admiration est réciproque, puisque pour Lionel Groulx, les Jeunes Canada représentent le réveil de la jeunesse canadienne-française, une étape importante dans sa conception du relèvement de la nation. Tout au long de l'existence des Jeunes Canada, plusieurs membres échangent une correspondance régulière avec Lionel Groulx. À plusieurs reprises, Groulx apporte ses conseils au groupe et lui ouvre les portes du milieu nationaliste. D'autre part, les membres rencontrent souvent l'abbé pour discuter de leurs idées. Mais Groulx fait plus que conseiller et influencer ces jeunes indépendantistes. Il assiste régulièrement à leur assemblée publique et parfois il y prononce des discours. Il participe aussi quelquefois à leur causerie radiophonique. Également, avant les assemblées publiques, Groulx a l'habitude de célébrer une messe pour bénir l'activité. Bref, durant la première moitié de la décennie 1930, Groulx est très près du réseau indépendantiste québécois, alors formé de ses jeunes protégés. Par contre, les Jeunes Canada sont sur le déclin à partir de 1935. Les membres sont démotivés et les comités ne produisent rien. Ceci s'explique par le fait que les jeunes membres entrent sur le marché du travail et semblent avoir moins de temps consacré à leur militantisme. Par ailleurs, au même moment, André Laurendeau part étudier en Europe. Or, même si Laurendeau n'était pas le président des Jeunes Canada, c'était lui la véritable tête dirigeante du groupe. Les Jeunes Canada cessent donc leurs activités à la fin de l'année 1935 et ce sont d'autres groupes qui prennent la relève du réseau indépendantiste. L'idée est reprise par deux groupes, l'un basé à Québec et l'autre à Montréal. À Québec, la plupart des indépendantistes se réunissent autour d'un journal nommé « La Nation ». Il s'agit d'un journal politique fondé en février 1936 pour promouvoir l'idée de l'indépendance du Québec. Le porte-parole et directeur de cet hebdomadaire est Paul Bouchard, un jeune avocat de la région de Québec. Au moment où les indépendantistes de Québec lancent la Nation, un autre groupe d'indépendantistes s'organise à Montréal, soit les Jeunesses patriotes. Les deux membres fondateurs des Jeunesses patriotes sont les frères Walter et Dostaler O'Leary, ce dernier étant, rappelons-le, un ancien membre des Jeunes Canada. Contrairement aux Jeunes Canada qui désiraient demeurer un petit groupe intime d'une vingtaine de membres, les Jeunesses patriotes, pour leur part, est un groupe ouvert qui souhaite augmenter ses effectifs. Ainsi, ils mettent sur pied un comité central à Montréal, ainsi que des cellules régionales dans plusieurs villes du Québec. Les actions organisées par les Jeunesses patriotes sont des assemblées publiques et des conférences, des marches patriotiques, des pèlerinages sur des lieux historiques, des manifestations et la vente de matériel promotionnel. Par ailleurs, les Jeunesses patriotes ont eux aussi au départ un journal d'opinion qu'ils nomment « L'Indépendance ». Mais celui-ci ne paraît qu'une seule fois puisqu'une entente est prise avec le groupe de Québec pour ne pas nuire à la vente de la Nation dans la métropole. Il y a donc au départ une bonne entente entre les indépendantistes de la Nation et ceux des Jeunesses patriotes. Les membres du comité central des Jeunesses patriotes écrivent dans les pages de la Nation et ils font la promotion du journal auprès de leurs membres. Par contre, après quelques mois de collaboration, une dispute dégénère entre les deux groupes. Paul Bouchard de la Nation et Walter O'Leary des Jeunesses patriotes entrent en guerre pour le contrôle du réseau indépendantiste. Walter O'Leary tente de prendre le contrôle de la Nation et de nommer son frère Dostaler comme rédacteur en chef du journal. De son côté, Paul Bouchard tente lui aussi de déloger Walter O'Leary de la présidence des Jeunesses patriotes pour y nommer l'un de ses amis et ensuite incorporer les Jeunesses patriotes comme aile militante de la Nation. Bref, d'un côté comme de l'autre, il y a des tentatives pour annexer le groupe rival, ce qui crée évidemment une division dans le réseau indépendantiste. Pourtant, les Jeunesses patriotes et le groupe réuni autour de la Nation partagent des idées semblables. Ils militent pour la création d'un nouvel État francophone en Amérique, mais dans le but d'instaurer un régime fasciste. Les indépendantistes de 36-37 prennent pour modèle l'Italie de Mussolini. Contrairement au Jeune Canada, ils rejettent complètement le système politique en place et ils dénoncent le parlementarisme et la démocratie, deux concepts qu'ils jugent désuets. Ils souhaitent remplacer ceux-ci par une autocratie corporative. Ils veulent réorganiser la société du haut, avec un chef unique et puissant, vers le bas avec des corporations de travailleurs. Bref, les indépendantistes de 36-37 conçoivent l'indépendance comme la première étape dans un plan visant à instaurer un régime fasciste au Québec. Cela dit, quel est le rapport de Lionel Groulx avec les indépendantistes de 1936-1937? Premièrement, mentionnons que, tout comme les Jeunes Canada, les indépendantistes de 36-37 vouent une grande admiration à Lionel Groulx. Selon eux, en militant pour l'indépendance, ils mettent en application les directives de l'abbé Groulx. À plusieurs reprises, les indépendantistes de la Nation désignent publiquement Groulx comme le maître et le père du séparatisme. Par exemple, le 28 mars 1936, Pierre Chaloux écrit « Cette idée maîtresse que nous avons reprise, nous, à la Nation avec plus d'audace, Groulx en est et en restera devant les générations futures le véritable doctrinaire. » Tous ceux qui espèrent encore en notre survie nationale se rallient à Groulx et le reconnaissent comme maître. Et de ceux-là, nous sommes. » Fin de la citation. Par ailleurs, un numéro spécial de La Nation est consacré à Lionel Groulx et son œuvre, au grand plaisir de l'abbé qui accepte volontiers d'y collaborer en envoyant des photographies et des notes biographiques. Cette admiration est aussi présente chez les Jeunesses patriotes qui dédient le premier numéro de l'indépendance à Lionel Groulx. Plus tard, le groupe commercialise même un buste à l'effigie de Groulx, sculpté par l'artiste Jean-Jacques Cuvelier de Trois-Rivières. Tout comme c'était le cas pour les Jeunes Canada, certains indépendantistes de 36-37 correspondent avec Lionel Groulx. Les indépendantistes lui demandent conseil, se plaignent de leurs problèmes et conflits internes et sollicitent son aide. Par exemple, dans les disputes internes du réseau, Groulx est parfois appelé à jouer un rôle d'arbitre. Groulx accepte également de participer à quelques activités des indépendantistes. Par exemple, il donne une conférence pour les jeunesses patriotes en septembre 1936. Néanmoins, Groulx est beaucoup moins présent dans le réseau indépendantiste de 36-37 qu'il ne l'était à la période précédente pour les Jeunes Canada. Il refuse généralement de s'afficher publiquement aux côtés des indépendantistes de la nation et des jeunesses patriotes. Il ne considère pas les indépendantistes de 36-37 comme ses protégés. D'autre part, il y a plusieurs prises de position de la nation et des jeunesses patriotes avec lesquelles Groulx n'est pas d'accord. Groulx n'est ni fasciste, ni corporatiste, et ses idées défendues par les indépendantistes de 36-37 l'indisposent. Également, il n'aime pas le peu d'importance accordée au catholicisme dans les pages de la Nation, et il s'en plaint d'ailleurs quelquefois à Paul Bouchard. Enfin, Groulx ne considère pas l'indépendance nationale comme une urgence. À quelques reprises, il tente de convaincre Paul Bouchard de modérer sa position. Il lui mentionne alors: « Le séparatisme ne m'a toujours apparu que comme une solution extrême, solution dont nous pourrions nous dispenser si une grande race de Canadiens français faisait entrer à Ottawa et à Québec la politique de haute envergure qui doit être la nôtre. » En fin de compte, Groulx réussit à convaincre Bouchard et les autres membres de la Nation de mettre de côté l'idée de l'indépendance pour plutôt proposer celle de l'autonomie. Les jeunesses patriotes, de leur côté, continuent à militer pour l'indépendance du Québec, mais ils sont beaucoup moins actifs en 1938 et 1939 et ils mettent fin à leurs activités lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate. Ainsi, les indépendantistes de 36-37 vouent toujours une grande admiration à Lionel Groulx. Mais cette fois, contrairement aux indépendantistes du début des années 1930, cette admiration ne semble pas réciproque. Bien qu'il soit toujours présent et qu'il corresponde avec les jeunes indépendantistes de 36-37, Groulx est beaucoup plus distant qu'au début de la décennie. C'est probablement les divergences idéologiques et les méthodes employées par les indépendantistes de 36-37 qui éloignent Groulx du réseau. Mes recherches m'auront donc permis de déterminer que Lionel Groulx était près des indépendantistes québécois des années 1930. C'est le cas principalement avec les Jeunes Canada, qu'il considère comme ses jeunes protégés. Il prend ensuite une distance un peu plus grande avec les indépendantistes lorsque l'idée est portée par des groupes d'inspiration fasciste. Mais en même temps, il est toujours présent. Il correspond avec les membres, il accepte les marques de reconnaissance et tente de modérer les conflits. Bref, il tient à se tenir informé. Ainsi, sans conclure que Groulx était indépendantiste dans les années 30, on peut néanmoins avancer qu'il avait un très grand intérêt pour cette idée. Il était le maître des indépendantistes québécois. Merci.
Merci, Mathieu. Alors maintenant, c'est la période des questions. Alors, pour une dizaine de minutes à peu près, présentez-vous au micro à gauche ou à droite. Allez-y.
Alexandre Dumas, j'aurais une question pour M. Bédard et Mme Ferretti. M. Bédard, vous avez mentionné le jugement très dur de Lionel Groulx pour Maurice Duplessis. Je pense qu'il parlait du règne de la médiocrité. Vous avez parlé du jugement en comparaison beaucoup plus positif sur la Révolution tranquille et ses principaux acteurs. Mme Ferretti, vous avez parlé de son jugement très dur sur l'Église, sur l'Église qui était décevante, très décevante, qui a échoué à incarner les aspirations des Canadiens français. Donc, Duplessis, l'Église, les deux pôles de la Grande Noirceur. Je me demandais, croyez-vous que Groulx ait contribué, peut-être malgré lui, à construire et à véhiculer le mythe de la Grande Noirceur, le mythe du Québec médiocre, sclérosé, endormi, qui se réveille subitement en 1960?
Certainement pas. Ça répond à votre question? Non, certainement pas, parce que d'abord, je laisse la question de l'Église, mais c'est quelqu'un, il ne partageait pas le mythe, l'idée de la Grande Noirceur, elle vient des libéraux. Mais elle vient aussi de Cité Libre. Il n'était pas du tout proche de Cité Libre, au contraire. Il ne se reconnaît pas du tout là-dedans. Mais pour lui, l'histoire du Canada français. Il y avait quelque chose, hein, il a utilisé le titre de son livre de 1958, Notre grande aventure. Il y avait une grande aventure, il y avait quelque chose de beau, d'héroïque, dans l'histoire de la Nouvelle-France surtout. Il y avait, bon, des pages plus sombres. Non, certainement pas. Mais il était extrêmement déçu de l'Union nationale. Ben, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de gens. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu méconnu, hein. Les gens vont dire, ah oui, tu sais, l'avant 60, donc ça, c'est Lionel Groulx, c'est Lyon National, c'est Maurice Bessy, c'est tout le même monde, là, c'est toute la même nébuleuse, mais c'est pas mal plus compliqué que ça. Et en effet, et là, j'ai lu le mémoire de maîtrise fait d'ailleurs à l'UQTR sur la réception de Chemin de l'avenir. Il y a un mémoire de maîtrise qui a été fait là-dessus en 86. Donc, toute la correspondance reçue par Groulx à la suite de la publication des Chemins de l'avenir. Et il y a eu quelques lettres d'anciens, de partisans de l'Union nationale qui trouvaient que Groulx il avait été très fort. Il avait été peut-être un peu trop dur. Ils étaient un peu blessés que Groulx ait dit ça de l'Union nationale. Alors voilà, donc je m'en tiendrai à ça. Donc non, je pense pas qu'on peut dire qu'il a construit l'idée de la grande noirceur. Il y a une grande déception, mais l'idée que l'histoire du Québec d'avant 1960 n'était que grande noirceur, c'est absolument totalement étranger. Même si c'était pas ce qu'il aurait souhaité, il aurait voulu plus pour son peuple, son petit peuple, comme il le disait.
Monsieur Laperrière.
Oui, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus.
Merci. Ça tombe bien. Moi aussi, je voulais poser une question à Lucia Ferretti, mais j'espère qu'elle va pouvoir répondre cette fois-là. Mais auparavant, j'avais une toute petite remarque pour Yves Gingras. C'est à propos de quand il a parlé de Marie-Victorin comme petit frère. Je voulais simplement signaler que les frères des écoles chrétiennes se considèrent comme les grands frères et que c'est les autres communautés de frères qui sont les petits frères fondés au 19e siècle. Eux, ils ont l'Académie de Québec, le Mont-Saint-Louis, c'est vraiment la grande communauté. Alors, traitez-le pas trop de petit frère parce que ce serait bien insulté. Mais j'ai été fasciné par les 8 communications qu'on a eues cet après-midi. Vraiment, on manque de temps pour digérer chacune. Lucia m'avait déjà parlé un peu ce qu'elle allait dire, alors j'ai pu réfléchir un petit peu moi aussi là-dessus. Et je suis vraiment très surpris, évidemment, que l'Église soit pas au centre de la pensée de Lionel Groulx. Spontanément, quand on pense à l'Église, à Groulx, tout ça, c'est dans le même paquet. Alors, c'est comme la question que je me pose, c'est comment on peut expliquer ça? Alors, j'invente 2 hypothèses. J'imagine
c'est
qu'elles
bon?
Sont
mauvaises. J'aurais pas besoin de répondre.
Probablement qu'elles sont mauvaises toutes les deux. Tu pourrais en donner une meilleure. Alors, une, ce serait que vous l'avez un peu mentionné, la façon dont il a été en butte avec plusieurs évêques. Et en particulier avec Mgr Charbonneau. Mais enfin, alors peut-être que est-ce qu'on pourrait dire que c'est son opposition aux autorités de l'Église avec lesquelles il a été en butte qui expliquerait peut-être cette espèce de compensation qui fait qu'il n'en parle pas ou qu'il en parle peu. Et l'autre hypothèse qui est tout à fait contraire, ce serait que l'Église est tellement présente dans la société dans laquelle il vit qu'il ne sent pas le besoin d'en parler. Tout le monde le sait qu'elle est présente dans les hôpitaux et tout ça. Il n'y a pas besoin d'être dans les asiles. C'est partout. Alors, pas besoin d'en parler, tout le monde le sait. Alors, entre ces 2 mauvaises hypothèses, peut-être que vous avez une meilleure réponse.
Je voudrais compléter la question de Guy dans le sens suivant, c'est-à-dire mon étonnement par rapport à Mgr Bourget. Pourquoi? Pourquoi l'absence de Mgr Bourget, selon toi, puisqu'on a toujours dit que Lionel Groulx avait grandi dans l'ultramontanisme, qu'il avait un grand respect pour Louis Veillot, son univers intellectuel, comment expliquer cette absence de... C'est quand même incroyable, c'est vrai.
Bon. Alors, oui. Sur Mgr Bourget, il y a 10 lignes ici, 3 lignes là, etc., quand même, Mgr Bourget est toujours présenté, quand il est présenté, d'une manière positive. Tous les qualificatifs qui vont avec Bourget sont les qualificatifs qui font que ça ne fait aucun doute qu'il reconnaît que ça a été un personnage majeur dans notre histoire. Moi, je pense, je me suis posé la même question, évidemment, hein, comment on peut expliquer ça? Franchement, j'essaie une petite explication. J'en avais 2, puis là, j'en ai perdu une. Mais une de celles-là, c'est que, dans le fond, Groulx, il voulait inspirer la jeunesse. Si tu rentres dans le clergé ou dans les ordres, Tu n'es pas le maître de ta propre vie. C'est-à-dire que tu vas devoir avoir les obédiences que tes supérieurs vont te donner. Donc, il y a moins, d'une part, l'Église, on cherchait vraiment à cette époque-là à montrer que l'Église ne fait pas de politique, hein. On avait eu tellement de critiques que là, l'Église, elle fait pas de politique dans son œuvre, ça c'est certain. Mais l'autre chose, c'est que lui, à qui il parle au jeune homme laïc qu'il espère voir prendre la nation sur ses épaules. Et c'est seulement si tu es un laïc que tu peux avoir quand même une certaine maîtrise sur ta propre vie. Parce qu'à partir du moment où tu rentres, lui, il y a quand même du batailler là, puis c'est vraiment parce que c'était groupe et qu'il y a eu quand même du monde autour de lui, parce que c'est clair dans les mémoires à quel point tous ceux qui relevaient un peu la tête, ils sont punis, puis ça traîne pas, hein. Donc, dans le fond, il sait très bien que tu ne deviens pas un chef religieux. On te fait un chef religieux. Tandis que tu peux être un chef laïque si tu dresses ta volonté, que tu développes ton sens national et tout ça. Donc, je pense que c'est une autre des raisons. Premièrement, il fait l'histoire de la nation. C'est toujours, toujours des chefs laïques qui sont en évidence. Puis je pense que c'est parce qu'il pouvait dire « voici un modèle à suivre ». Enfin.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais inviter Pierre Gravine à vous parler de la suite. Et je vous remercie, les conférenciers. C'était très intéressant.
Alors, je vais vous demander encore un petit moment d'attention, ça ne sera pas très long, pour vous dire que, bon, on va dans quelques minutes vous inviter à un cocktail. Ce cocktail nous est offert par la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, donc je voudrais les remercier au nom de la Fondation et de l'Institut. Et je voudrais inviter M. Jean-Pierre Marquis, qui est vice-doyen aux affaires professorales de la Faculté, qui est parmi nous, quelque part. Monsieur Marquis, à vous adresser brièvement la parole.
Merci beaucoup. Je serai très bref. Je sais que la journée a été très longue. D'abord, je tiens à excuser Gérard Momenu, le doyen de la Faculté des arts et des sciences, qui malheureusement ne peut être parmi nous, mais qui tenait absolument à ce que l'on vienne souligner notre appui à cet événement important et ce colloque que vous vivez depuis ce matin. Je veux souligner deux choses, je serai vraiment très bref, mais d'abord, on célèbre le 100e anniversaire de la création de la chaire à l'Université Laval à Montréal, chaire en histoire à l'Université Laval à Montréal. Probablement qu'aujourd'hui, on créerait une chaire en histoire à l'Université de Montréal à Laval, et ce serait l'inverse. Cela étant dit, permettez-moi aussi une petite note tout à fait personnelle sur ce que je viens d'entendre et ainsi de suite. Je suis personnellement philosophe des mathématiques. Je m'intéresse aux mathématiques du 20e siècle, à peu près de la même période, donc de 1900 à 1960-65. Et au cours des 15 dernières années, malgré moi, je vous le dis honnêtement, je me suis tourné vers l'histoire beaucoup plus des mathématiques, beaucoup plus précisément, et commencé à faire un travail. J'oserais pas dire d'historien parce qu'on veut surtout pas qu'un philosophe commence à faire de l'histoire. Les dérives métaphysiques sont trop faciles et dangereuses. Mais j'ai rapidement constaté une chose, c'est que lorsque je m'adressais à mes collègues mathématiciens pour leur poser des questions sur l'histoire de leur discipline, je devais constater qu'ils se construisaient leur propre histoire et qu'ils avaient leur propre explication des phénomènes et que lorsque j'allais voir moi-même dans les textes, je découvrais tout autre chose. Et là, quand je les confrontais à nouveau sur ce que j'avais découvert, ils étaient incrédules, ne me croyaient pas. J'ai même été insulté par certains mathématiciens en me disant « c'est impossible ». Il a fallu que je leur fasse la démonstration. Ce qui, moi, m'a évidemment convaincu que ce genre de travail était non seulement indispensable, mais extrêmement enrichissant, parce qu'à partir du moment où on a trouvé ça, il y a toute une série de questions qui se posent, il y a toute une série de problèmes que l'on doit aborder, et les réponses deviennent extraordinairement riches. Et évidemment, ce que vous avez fait aujourd'hui, et ce que j'ai cru entendre, va exactement dans ce sens-là. Et la faculté appuie sans réserve ce genre de travail en histoire, dans les lettres et sciences humaines. Moi-même étant de ce milieu, je juge que c'est indispensable qu'on le fasse et c'est extrêmement important que l'on poursuive et que l'on y consacre l'énergie et les efforts nécessaires. Sur ce, je vous invite maintenant à un cocktail et à aller célébrer. Ah, non, je m'excuse, on m'a dit que c'est pas tout de suite. Là, là encore pour le protocole. Mais je tiens à vous encourager à poursuivre demain et ça me fera plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous après lors de ce cocktail qu'on vous offre. Merci.
Merci beaucoup. Il y aura une encore brève intervention. Écoutez, il y a 50 ans, à l'occasion du 50e anniversaire de la chaire d'histoire du Canada, Lionel Groulx prononçait deux conférences à l'Université de Montréal. Ces conférences inédites jusqu'à ce jour, on en a appris l'existence il y a quelques mois quand Nino Gabrielli, qui est le bibliothécaire à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal, nous a donc informé qu'avaient été retrouvés dans les archives de l'Université de Montréal les enregistrements de ces deux conférences. Alors donc, nous avons décidé, la Fondation avec la Bibliothèque, de transcrire ces conférences. Ces conférences, de même qu'une entrevue inédite que Lionel Groulx a accordée à une étudiante quelques mois avant sa mort, sont mises en ligne aujourd'hui même sur le portail Calypso de l'Université de Montréal. Et la Fondation a pris la décision de les imprimer et nous allons vous l'offrir. C'est donc le cocktail et l'occasion du lancement de cette publication. Et je voudrais inviter Nino Gabrielli, qui est le bibliothécaire qui nous a mis sur cette piste et avec qui on a collaboré, à venir vous dire brièvement quelques mots.
Alors, bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Je serai aussi bref. La Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal est heureuse de participer aux célébrations entourant le 100e anniversaire de la Chaire d'histoire du Canada, en lançant donc la collection Lionel Groulx sur Calypso, le portail des objets numériques de la direction des bibliothèques. La mise en ligne de ces enregistrements historiques de Lionel Groulx constitue une importante étape dans la publication des archives du défunt Centre audiovisuel de l'Université de Montréal, qui constitue un véritable trésor patrimonial créé et développé dans les années 60 et 70 par feu le professeur Réginald Hamel, que tous ici sûrement connaissent. Ces enregistrements du Centre audiovisuel, maintenant conservés pour la plupart par la Division de gestion de documents et des archives de l'Université, et pour que quelques dizaines d'autres par la Bibliothèque des lettres et sciences humaines, sont en effet les témoins d'une époque florissante au Québec. À travers un grand nombre de captations inédites, de pièces de théâtre, de récitals de poésie, de spectacles de variété, de performances collectives, etc., ces enregistrements contiennent le témoignage de plusieurs grandes personnalités, plusieurs aujourd'hui disparues, qui ont marqué le Québec. Gaston Miron, Michel Chartrand, Jacques Ferron, Alfred Desrochers, Pierre Bourgault, Claude-Henri Grignon, ce ne sont que quelques-uns des grands noms dont les archives audiovisuelles contiennent des enregistrements patrimoniaux et qui n'attendent encore qu'à voir le jour sur le web. Lorsqu'au printemps 2014, au milieu d'une discussion, j'ai mentionné à Robert Comeau, un peu inopinément, que j'avais numérisé deux enregistrements inédits de Lionel Groulx, il m'a tout de suite fait part du vif intérêt de la Fondation à diffuser ces importants documents qui attendait, pour ainsi dire, sur ma tablette. Je voudrais le remercier très chaleureusement d'avoir été l'étincelle, que dis-je, d'avoir été encore une fois un incroyable initiateur et infatigable initiateur de projet et d'avoir permis à tout ceci de voir le jour. Remerciements les plus sincères aussi à Pierre Graveline, directeur général de la Fondation, qui a participé activement à la production de la très belle publication que nous aurons aujourd'hui entre les mains et qui est gracieusement offerte par la Fondation. Ma grande reconnaissance va évidemment à la Fondation elle-même pour avoir soutenu financièrement la transcription des conférences de 1965 que nous vous présenterons dans cette publication, ainsi que celle, comme le disait M. Graveline, d'un très intéressant entretien de 1967 avec Marie-Lise Brunel, qui était alors étudiante, et qui constitue tout probablement le dernier enregistrement connu de Lionel Groulx, dans lequel il parle avec humour et très librement de son rapport avec le nationalisme, avec l'indépendantisme même, où il évoque ses rapports avec de nombreuses personnalités du 20e siècle, notamment avec Henri Bourassa, avec lequel il avait une relation toute mêlée d'admiration et de divergence, de grande divergence. Donc c'est très très intéressant. Et alors, je voudrais dire un dernier mot finalement pour souligner le travail exceptionnel de transcription, de recherche et d'établissement du texte effectué par François Maltais, que je remercie pour son professionnalisme, sa grande générosité, ainsi que sa disponibilité de toujours, c'est-à-dire disponibilité le jour et parfois, souvent la nuit. Donc, merci beaucoup à tous, bon cocktail et bonne suite. Je vous invite, si vous êtes intéressés, à consulter ces documents, donc à entendre Lionel Groulx en 1967 ainsi qu'en 1965, à faire une petite recherche sur Google. Vous pouvez taper seulement Calypso, avec un Y, U de M, dans Google, et vous allez tomber sur cette page-là où les enregistrements de Lionel Groulx sont situés, ainsi que des photos de l'événement de 1965 et des coupures de journaux de l'époque qui ont rapporté l'événement. Je vous remercie.
Alors voilà, merci beaucoup Nino Gabrielli. Vin et Boucher vous attendent. Je vous rappelle que nous reprenons à 10 heures demain matin.